Ah, donc ça a commencé, ok, très bien, joie à l'esprit.
Ouais, ouais. On a retrouvé Nagui.
Joie à l'esprit.
Il est 11h30 quand même, Nagui.
Joie à l'esprit. Il y a deux femmes avec qui je parle et c'est fini. Dans mon dos, on décide de faire une émission tout seul. C'est moche. C'est moche ce que vous faites.
Bah, tu nous connais.
Soyez les bienvenus. C'est, oui, là-bas, ah, oui, avec Morgane Gadinier.
Salut.
Avec Alex Kobinek. Bonjour. Avec Henri Pastureau, Daniel Morin.
Oui, c'est
et
ça, bravo.
Et nos invités, Rebecca Marler et Sandrine Kilian. Avec ce film bouleversant qui sort aujourd'hui, une jeune fille qui va bien, on va en parler avec elle, avec nos invités. Ce film est bouleversant, c'est le premier long-métrage réalisé par Sandrine Kiberlin dans lequel elle ne joue pas, ou alors il y a un caméo et je m'en suis pas rendu compte.
Non, je crois pas.
Il n'y a pas la passante qui passe au loin de dos. Non, t'as cherché toi aussi à voir?
J'ai cherché un peu mais j'ai pas trouvé. En même temps, je suis pas très observateur.
Une jeune fille qui va bien, donc que faire comme blind test autour de cette histoire?
C'est chouette.
Alors,
on dirait du David et Jonathan. C'est quoi ça?
Daniel?
Oui.
Pani?
Oui, très bien.
Tu seras bienvenue chez moi.
Attends.
Bienvenue chez moi.
Alors, ce blind test, on avait prévu de le faire depuis quelques jours, avant que Florent ne fasse cette déclaration totalement bouleversante qu'il a faite hier.
Qui a accueilli tout le monde.
Qui a accueilli tout le monde, et il l'a fait avec énormément de courage, ce qui ne me surprend pas du tout.
Pardon, de quoi parle-t-on ?
Connaissant le bonhomme. C'est-à-dire que, face caméra, il a annoncé qu'il annulait sa tournée, parce qu'on venait de lui déceler un cancer des poumons, un cancer qui ne pouvait pas être opéré, qu'il allait donc subir des mois d'opération
et
de chimio. Voilà. Ouais. Et qu'il reviendra plus fort après cette chimio. Mmh. Et je sais qu'il reviendra plus fort après cette chimio et je l'embrasse fort. Et le clin d'œil de la musique, c'est de commencer avec Bienvenue chez moi, puisque bien, une jeune fille qui va bien, voilà, ouais. Bienvenue chez moi, Florent Pagny.
Ah ouais, t'as fait aucun effort quoi.
Donc sur bien,
moi.
Bien,
oh, good.
Voilà, moi, hey, bienvenue.
Il y a bien, j'ai réagi.
Morgan.
Ouais.
C'est l'homme pâle. Pas du tout, Sorelson.
Ouais, c'est vrai.
Autant
ouais.
Pour moi.
J'adore.
Ça, j'ai pas
la technique.
J'ai pas
la technique de la Cadignan.
La technique
elle
de.
Elle dit n'importe quoi, elle gagne du temps.
On n'est pas loin de la technique de la Leïla. Hein. C'est-à-dire, je prends la parole.
Je pense que par capillarité.
Et je cite tous les rappeurs blancs.
De fauteuil.
C'est les ondes, c'est les
c'est
énergies.
C'est les ondes, exactement.
C'est son esprit.
Orelsan, tout va bien.
C'est quoi le thème?
C'est bien.
Eros Ramazzotti?
Non, t'as pas le droit.
Ah, pardon.
Non, t'as pas le droit. Non,
la sentence.
On l'a reçu plusieurs fois.
Bien sûr,
Morgane.
Oui,
c'est Jean-Louis Aubert.
Mais évidemment. Bien sûr,
bien sûr.
On s'aime si fort.
Ah ouais, bien sûr.
Ah mais je t'ai dit, dès qu'il y a bien, j'ai réagi. Tu vois, s'il y avait eu bien appétit, j'aurais pris aussi, tu vois. Sans foi ni loi.
Le Gypsy King?
Non, pas loin.
Non,
ça me vient un truc.
Morgane Kenji?
Non.
Morgane, Claudio Capéo?
Non, mais ça va pas.
C'est pas Kenji.
Mais montez vos casques.
C'est français?
Mais oui, oui.
Enfin, pas justement, il y a un débat, pardon.
Alexandre Gims.
Oui, c'est donc pas français.
Il y a un débat.
Il veut pas. Bah oui, il voudrait.
Mais c'est marrant parce que c'est pas trop du Gims.
Non.
On dirait que. Là.
Bah oui, forcément.
Là, on reconnaît.
La petite guitare sèche, j'y étais pas.
Là, on reconnaît le chanteur sinusite.
Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité aussi, quand j'ai dit pas totalement, on commençait pas à lancer un débat. Simplement, il a demandé la nationalité française.
Il a refusé.
Ça a été voilà une première fois, il la redemande et apparemment le dossier n'est pas très favorable voilà. Après ce qu'on a compris ici même sur Inter.
Il ne représente pas assez la culture française.
Alors qu'il remplit le Stade de France.
Oui, enfin Coldplay aussi, on va pas donner passeport français.
Aussi, on
ils l'ont demandé, un Coldplay.
Qui chante ça?
Et pour rouler des joints avec.
Très France Inter.
Morgane,
oui.
Vincent Delerme.
Non.
Alexandre,
oui.
Raphaël.
Non.
Barbara.
Non.
Albin de la Simone.
Non, ouais, c'est la bande.
Bah, l'autre.
Dominica.
Écoute.
Dominica.
Non.
Mais oui.
Parce que c'est bien.
Bogart.
Alex Pompin.
Oui. Bien joué, Mathieu Bogart.
Ah, Mathieu Bogart.
C'est le quatrième.
Alors, ouais, le titre est simple, c'est bien.
Ah, bien joué, Nagui. Tu l'as isolé, celui-là. Tu trouves pas.
Mais c'est quand même super bien, Mathieu Bogart. J'adore. Qui chante ça, hein?
Imagination.
Non, mon réveil.
Illusion.
Non,
non.
Ça dure 15 minutes.
C'est mon radio réveil, ouais, c'est ça.
C'est pour ça que t'arrives à la bourre.
L'une des révélations de ces dernières années.
Ah si, c'est celui qui saute dans tous les sens.
Oui.
Alexandre,
ah.
Hervé.
Oui.
Ah, t'as dit saute dans tous les sens.
Ah mais oui, mais oui. J'ai pas un quart de point pour ça, hein?
Non.
Non, d'accord. Description physique, ça ne marche pas.
Alors on pourrait le faire, on pourrait faire des mimes même, on pourrait faire des choses comme ça, mais non.
Ouais,
jusque là, c'est pas possible.
En radio, ouais.
Pour l'instant, c'est plutôt bien d'ailleurs parce qu'il y a deux points. D'un côté pour Daniel, deux points pour Morgane, deux points pour Alex. Tout se joue sur...
Ravi Shankar. Non.
Non. Qui chante ça? Il y a bien dans le titre.
On s'en va sur des chemins
différents. Morgane.
Non,
toi, c'est Daniel. Bien.
Ouais. J'ai reconnu ce petit arbre. Mon chanteur préféré, j'adore gagner là-dessus.
Tu as raison d'aimer Vianney, tu as raison.
En plus, il est généreux.
Victoire de... C'est vrai,
ouais, oui.
Victoire de Daniel Morin, oh. Merci d'accueillir Rebecca Marder et Sandrine Tiberlin.
Wouhou ! La bande originale.
J'aime bien ce...
Avec Nagui.
Elles se regardent toutes les deux en disant « Mais toi aussi t'es invité ?» Mais oui, on est ravis que vous soyez là toutes les deux. Et surtout ravis de vous dire dans le blanc des yeux toute l'admiration et la tendresse.
Et tout le plaisir avec... qu'on a pris à regarder le film.
Ouais. Alors, il y a des moments douloureux, mais c'est vrai que c'est un plaisir cinématographique, oui. En tout cas. Mm-hmm. Pour ce premier long-métrage, on se demandait, Sandrine, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il y avait un caméo, s'il y avait une scène où vous étiez la passante qui passe, vous étiez dans le reflet d'un miroir quelque part.
Non.
Jamais vous avez mis un point d'honneur à ne pas vouloir être là. Il n'y a même pas un objet à vous, un truc, un doudou. Non mais tu sais, un truc. Hitchcock faisait souvent ça. Il était présent dans les films sans qu'on le voie.
Je ne suis pas Hitchcock.
Ah, c'est ça.
C'est ça.
Je me disais aussi. Comment est né ce portrait? Parce que c'était le. Je me souviens vous avoir reçu dans Taratata en disant alors, vous préparez un film qui s'appelle Portrait d'une jeune fille.
Ouais.
Vous m'avez dit non, c'est plus le portrait, c'est une jeune fille qui va bien.
Ouais.
Mais comment est né ce portrait déjà au début?
C'est né de l'envie de parler de cette époque
de la Deuxième Guerre mondiale.
Nous connaissons tous de l'occupation.
Ouais, c'est plutôt l'occupation.
Ouais. Voilà. Et de la naissance de l'occupation et de l'avant bascule, l'avant terreur.
Juste à la limite.
Exactement. Ouais. Et donc, de ne pas le traiter comme ça a été déjà traité. Enfin, je cherchais un moyen d'avoir un autre point de vue.
C'est-à-dire, on est quoi? On est entre la défaite, l'insouciance et...
Ben, on est dans la jeunesse, donc on est dans la liberté, l'insouciance, l'immortel. Et d'une fille, voilà, qui a 19 ans, que joue Rebecca Marder. Et qui,
de la comédie française, même si les choses ont l'air de changer, enfin refaire toutes les affiches, hein, parce que il y a des annonces qui ont été faites.
Justement, le film est au présent, se passe au moment où je le fais, elle y est encore.
D'accord.
Mais oui, c'est vraiment regarder cette période de l'histoire au présent. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Comment pouvoir imaginer l'inimaginable? Donc on est avec elle, au présent, dans son âge, dans l'âge qu'elle a. Elle est pressée, elle est amoureuse, elle a des cours de théâtre, elle a ses amis, elle a l'âge qu'elle a. Donc elle ne peut pas supposer que les choses vont...
Il y a un futur qui se dessine et on vit à 100 à l'heure.
Voilà, on vit à 100 à l'heure, et elle ne pose pas de questions. D'ailleurs, elle ne dit pas, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais vous avez l'air pas bien. Alors que les adultes, eux...
Protégés par son père, c'est ça?
Voilà, les adultes, eux, nous servent d'indications et d'informations... j'espère pas trop démonstrative, mais sur là où on est et quand se passe le film.
Non,
et ça suffit pour dire qu'on, puisque nous on sait ce qui s'est passé, ce qu'elle est en train de vivre sans le savoir en fait.
Les spectateurs ont 80 ans d'avance sur elle, donc...
Oui, oui, oui et non, parce que même lorsqu'elle reçoit un courrier que son père lit le courrier, on sent que c'est pas une bonne nouvelle, mais il replie le courrier. Nous, on l'a pas l'information.
C'est vrai. Et on l'a juste après.
Et là, voilà. Et là, on se pose beaucoup de questions. De la même manière, sur il faut écrire en rouge juif sur sa carte d'identité. Il faut broder une étoile sur ses vêtements. Toutes ces informations-là, la manière dont elles,
c'est les 3-4 informations qu'on a et qui, mais qui font confiance au spectateur. En fait. Parce que le spectateur, lui, est dans la tension qu'il connaît, puisqu'il connaît l'issue de l'histoire, alors que elle, au présent, on ne pouvait pas soupçonner ce que ça allait devenir. Donc je me suis mise à la place de quelqu'un qui le vit au présent et qui le vit surtout à 19 ans, quand on a l'âge de tout découvrir et d'avoir envie d'aller très vite rejoindre son...
Et ses potes, et sa vie. Et c'est pas l'âge de ses peurs ultimes,
exactement.
En plus. C'est pas l'âge.
Non.
Non.
Vous l'avez joué d'ailleurs comme ça, avec cette modernité, Rebecca Marder.
C'est vrai que oui, je me sentais assez proche finalement du personnage d'Irène, parce que je pense qu'elle est intemporelle. Pendant les 20 premières minutes du film, je trouve qu'on peut ne pas savoir à quelle époque on se situe.
Absolument.
Et pour moi, cet âge-là n'était pas si lointain. Les cours de théâtre, les auditions, passer les concours pour rentrer. Moi, j'étais à l'école du TNS et puis l'audition pour rentrer à la Comédie Française. Donc en fait, c'est cet âge de tous les possibles et de toutes les croyances. Elle a tellement foi en l'amour, en sa passion, qu'en fait, je m'efforçais de, moi, Rebecca, oublier ce que je sais de l'histoire avec un grand H pour vivre l'histoire d'Irène au présent et avec mes partenaires qui sont exceptionnels. Donc en fait, on était toujours sur un fil tendu au présent. Et moi, je vivais les scènes au présent puisqu'en fait, ça parle d'amour et d'art et de sa passion.
Et d'amitié. Et d'une troupe, même s'ils ne sont pas encore tous tamponnés, estampillés actrices, acteurs. Il y a déjà un sentiment de troupe, de partenaire, d'échange de rôle.
Tous les acteurs.
Tous les jeunes acteurs du film étaient assez... Enfin, quand on s'est retrouvés à jouer ces scènes de cours de théâtre, on était tous un peu nostalgiques justement de cette période où on se disait la boîte noire, où tous les échecs sont possibles, tous les rêves, on croit qu'on va y arriver, qu'on va réussir ces concours. C'est une période qui est à la fois galvanisante et traumatisante. L'âge des 19 ans, l'âge des choix, de transit et tout ça. Et moi, je trouve que en ça, je la trouve assez intemporelle, cette Irène, parce que elle est d'aujourd'hui et de demain. Je trouve que c'est bien sûr les époques sont incomparables et ce serait obscène de prétendre.
Mais en même temps, c'est une manière de ne pas oublier.
C'est aussi l'avant, la première restriction, la deuxième restriction, la troisième. Et quand on est empêché, amputé dans des rêves, des projets, des deuils, enfin, on vit ça tout le temps. Et en fait, cet âge-là, il faut continuer puisque c'est la vie et la force de la vie.
Ce qui est très intéressant dans votre film, justement, Sandrine, c'est cette volonté, même au niveau des costumes, de ne pas rentrer dans des clichés. Les gens dans la rue ne sont pas avec des bérets sur la tête. Voilà. c'est vrai que c'est assez intemporel, justement.
Mais Rebecca a raison. On met un certain temps. Si on n'a pas vu la bande annonce.
Oui, c'est le contraire d'un film où il y aurait écrit dès le début juin 1942. Ma volonté, c'était le mot d'ordre pour tous les postes, c'était de pas faire un film de reconstitution et d'être jamais dans l'anachronisme non plus des costumes, des décors et des situations.
On est dans une
vraie chronologie des événements qui arrivent, mais c'est pas démonstratif, explicatif, et ni les costumes ni les décors veulent être marqué de signaux et d'enfonçage de clous qu'on connaît déjà.
Parce que
du coup, c'est ce que vous voulez, l'humain, c'est ce qui a été fait déjà mille fois.
C'est l'histoire qui
a été fait mille fois, et puis se dire que ça pourrait être aujourd'hui.
C'est ça, c'est ce qui les relie.
Vous vouliez poser une question.
Franchement, moi je vais vous laisser. Ça se passe extrêmement bien entre Daniel et vous. Soyez prudente quand même, on a 2-3 dossiers qui traînent.
Nagui, si vous voulez...
Présomption d'innocence, s'il vous plaît.
Alors, quelle est votre question,
cher
Nagui ?
Rien, c'est de dire que le film sort aujourd'hui, de savoir dans quel état vous êtes.
Je vous ai dit, j'ai mon genou qui part en...
Vous le masquez bien en tout cas.
Non, ça va. La fille, ça va très très bien. Je suis une jeune femme qui va bien. Ce qui veut tout dire quand on connaît le propos du film. Donc je vous dis pas les secondes couches.
On va saluer évidemment la distribution de ce film. On va saluer Rebecca Marder qui est notre invitée. André Marcon qui est juste dinguissime aussi dans son rôle de papa. Anthony Bajon, Françoise Widoff, India Air qui est votre...
Sublime.
Mais il y a évidemment, il y a plusieurs scènes marquantes dans ce film, mais il y en a une, on ne dira rien de cette scène, il y en a une où elle est face caméra et où tout est, ou rien n'est dit, tout se lit sur son visage.
Tout passe par elle.
Et c'est,
et si on n'est pas assis, on
c'est
tombe.
C'est totalement dingue. Florence Viala, Ben Attal, aussi, qui, disparaît, mais il est où mon partenaire? Il est où? C'est Joe. C'est le pote avec lequel vous échangez les scènes en début de film. On va continuer évidemment de parler de ce film qui a été extrêmement bien accueilli, parce que c'est prix du, vous avez reçu le prix du meilleur scénario au Torino Festival Film. Vous avez eu le prix Schumann International au Festival du film juif de Jérusalem. Et il est bien accueilli aussi par, j'ai envie de dire, par la critique, tout simplement. Je ne sais pas si cela remplace le nombre d'entrées, le public, la réaction, mais c'est vrai que tout cet accueil, oui, c'est ça.
Moi, je suis très heureuse.
C'est plutôt réconfortant, oui.
C'est un premier film, hein, donc c'est des débuts.
C'est une réussite. C'est une réussite.
Je me demandais comment les gens allaient percevoir ce parti pris, quand on fait un premier film, on ne sait jamais comment on va être
perçu. Ça a commencé quand, concrètement, le film, les premières écritures, l'idée de commencer à...
Il y a longtemps dans ma tête, mais il y a 4 ans, concrètement. Je me suis mise à la table pour écrire il y a 4 ans.
Et aujourd'hui, c'est le coup près.
Et aujourd'hui, je la lâche dans la France entière.
Dans la nature. Il n'est plus à vous, hein, ce bébé. C'est le principe.
C'est bizarre. Mmh.
Une jeune fille qui va bien, on va continuer d'en parler. On est ravis de vous accueillir. Rebecca, c'est la première fois. Sandrine, ce n'est pas la première fois.
On est ravis d'être là.
Mais attendez 2 secondes, parce que vous allez voir. Morgane,
en connaissance de cause.
Morgane, vous et moi, mais pas du tout, Morgane.
Alors non, Rebecca Marder, Sandrine Kiberlin, je vous aime pas, mais enfin Sandrine Kiberlin, premier long métrage. Franchement, je suis tellement contente, je suis à 2 doigts de lancer une hola dans le studio, quoi. Mais d'ailleurs, attends, merde, on a qu'une vie, je vais le faire.
Allez,
hola, hola. Et vous pensiez que le mois de janvier était triste? Attendez de voir quelqu'un essayer de mettre une ambiance dans un studio de France Inter. Alors déjà, Sandrine,
totalement
pour commencer,
gratuit.
Super titre. Moi, je suis contente qu'elle aille bien, la jeune fille, parce que la première fois avec Simone, elle était rangée, et la deuxième fois avec Céline, elle était en feu. Donc là, c'est bien. Que pour une fois, pour la jeune fille, ça roulotte, quoi. Un film sur l'insouciance de la jeunesse, et quel que soit le contexte, parce que là, on est à Paris en 42, mais surtout, on est à Paris, et c'est ça qui est beau dans ce film. On est à Paris en 42, et on entend la jeunesse d'Irène claquer plus fort que les bottes des nazis, ouais. Et c'est très joli. C'est très joli, pas le film, hein, c'est très joli ma phrase. Enfin, pardon, je m'améliore de jour en jour, quoi, c'est impressionnant. Et de voir votre personnage, Rebecca, découvrir l'amour, poser une tonne de questions, sillonner la ville à vélo, ça m'a rappelé la légèreté de ma jeunesse que j'ai passée enfermée dans ma chambre à tchatcher sur MSN avec des gens avec qui j'étais enfermée en cours toute la journée. Franchement, avec le recul, je me rends compte que j'aurais été en tôle, ça aurait été pareil, quoi. À la différence près que les matons de Fresnes, ils sont quand même plus sympas que ma mère. Et qu'à Florimé Rogis, la bouffe est meilleure. Enfin, goûter les raviolis au four de cette femme, c'était quelque chose, quoi. J'ai grandi à la campagne et vous croyez peut-être que j'ai fait du vélo dans les champs de mimosa. Que nenni, je regardais les mini-cums à longueur de journée en me disant qu'un jour je bosserais peut-être pour l'un d'entre eux. Donc là, en regardant votre film, Sandrine, je me répétais, c'est si bien d'avoir 20 ans. Sauf que quand t'as 20 ans, tu te rends jamais compte que c'est si bien d'avoir 20 ans. Putain, pardon, hein, mais encore une phrase incroyable. Les gens, ils sont en boucle à faire tout un foin sur Léo Ferré alors que je suis là tous les matins. Quoi. Sérieusement, je suis encore jeune, mais je suis déjà nostalgique d'avoir été plus jeune encore sans vraiment avoir su profiter, car mon quotidien, ça consistait à me détester et avoir peur que les autres le fassent aussi. Et quand les autres découvraient que j'étais une enfume, pour toute réponse, j'écrivais une insulte sur Skyblog en mettant en légende se reconnaître à qui de droit. Voilà, c'est un sport, hein, d'être une cagole également à l'écrit. Franchement, si j'avais à nouveau 20 ans aujourd'hui, déjà, je me ferais pas la frange que j'avais quand j'avais 20 ans parce que j'ai revu des photos. Et quand on a un tel paillasson sur le front, faut pas s'étonner que les gens s'essuient les pieds sur ta gueule.
Non,
vraiment, c'était pas joli. Rebecca Marder, quand vous aviez 20 ans, bon, déjà, c'était il y a pas longtemps, mais surtout à 20 ans, vous entrez à la Comédie Française. Bon, on va pas partir dans les comparaisons parce que ça va faire souffrir tout le monde. Disons simplement que vous aviez Pierre Corneille quand moi j'avais Corneille tout court, et je peux vous garantir qu'on vient de loin. Non, mais la violence de la biographie de cette personne, quoi. 2013, intègre Hippocagne, qu'elle doit quitter pour les besoins d'un tournage. Sorry! Elle doit quitter Brad Pitt pour épouser Leonardo DiCaprio.
Oh, c'est
bon, moi, en attendant de plaquer Tom Holland ou Ben Affleck, je retourne à mon minicum parce qu'on a une émission à finir.
Merci, Morgane. À Bruxelles, et c'est complet ce week-end, c'est ça?
C'est complet ce week-end.
Ok, c'est déjà une bonne nouvelle.
J'espère, c'est bien.
ce qui est formidable dans le film, il y a d'abord, c'est l'amour que vous avez des actrices et des acteurs. Ça se sent. Ça se sent sûrement d'ailleurs aussi. Ça commence par le casting, par le choix de celles qui vont jouer. J'appuie sur celles parce que c'est la part belle, je vais y arriver, aux femmes, et en l'occurrence de toutes les générations. Je pense à ces deux grand-mères dans le lit, l'une et l'autre collées comme ça ensemble, en train de lire la définition dans le dictionnaire. Mais cette scène, elle est dingue. Elle est dingue à pleurer. Elle est tellement bien jouée, et je veux pas faire de reproches aux actrices, en l'occurrence, parce que pour moi, elle est même pas jouée, elle est vécue. La manière dont ça monte, la manière dont c'est lu, on se dit, c'est tellement naturel. C'est pas un jeu, c'est pas de la mécanique, c'est pas, attends, bouge pas, je vais aller chercher un truc qui va te faire comprendre que je vis ça. Non. Elle le vit, elles sont toutes les deux totalement plongées dans cette définition du dictionnaire. J'ai encore envie de pleurer, ça embarque à une vitesse phénoménale.
Oui, oui, mais moi je suis actrice. De fait, je me demande si ça joue pas sur l'amour que j'ai pour les acteurs, peut-être, parce que j'ai été moi-même tellement portée par des regards de cinéaste, je sais ce que c'est que d'être portée, ou que d'être mal portée, ou bien portée. Donc j'ai une conscience aiguë de comme il faut aimer les acteurs, comme il faut les choisir avec beaucoup de soin, parce qu'après il s'agit pas de les désaimer. Il faut les choisir pour les aimer, leur donner confiance, parce qu'ils s'abandonnent, comme vous dites, c'est un moment presque, c'est saisir l'instant où la chose doit se passer comme une première fois. Donc quand elles lisent par exemple ces deux grand-mères le dictionnaire, je les emmène à ça, mais c'est elles qui ont le film dans la tête et qui je les aime, je leur donne confiance et je me force pas d'ailleurs, parce que je les aime et j'ai confiance en elles comme elles ont confiance en moi. Et avec Rebecca, c'était très facile.
Quelle est la frontière entre aimer une actrice, un acteur, et le diriger, c'est-à-dire l'emmener vers ce que l'on veut?
Je pense qu'un acteur, il sent quand le metteur en scène est totalement habité par son projet et il veut devenir le messager, le relais, quoi. Et s'il sent le metteur en scène complètement transporté par son histoire, complètement imprégné de ça, et que j'arrive à leur transmettre ça, et que je sens chez l'acteur une volonté aussi d'être habité par la même chose et d'aller dans le même sens, à ce moment-là, la direction fait partie de cette transmission, enfin de cette façon de se faire confiance, quoi. C'est pas une direction, c'est une transmission, c'est vraiment la confiance de l'un et de l'autre.
Sûrement aussi la situation que vous avez vécue, Rebecca, avec il y a plusieurs scènes bouleversantes. Heureusement, il y en a qui sont souriantes aussi, qui sont tendres, qui sont aimantes, et puis il y a celles qui, encore une fois, nous font pleurer parce qu'elles sont chargées d'émotions dans l'interprétation, et sans grossir le trait, sans appuyer comme ça lourdement, disons, avec des violons qui viennent dans la BO, avec attention, c'est le moment là où il va falloir que vous pleuriez. Je pense à l'anniversaire, au gâteau d'anniversaire, à votre papa, cette scène là où vous lui chantez un bon anniversaire, qui est un plan séquence. Vous nous embarquez avec votre voix, votre fragilité, l'amour que vous portez à votre papa, et une émotion qui vous envahit dans ce jeu-là.
Oui, c'est vrai, complètement. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur ce tournage, et c'était la première fois. Mais parce que je crois qu'en fait, des rencontres comme celle que j'ai eu la chance de faire avec Sandrine n'arrivent pas, en fait, beaucoup de fois dans une vie. Mais il y avait souvent un espèce de justement, comment ? Je me sentais très reliée à Sandrine, et parfois de la sentir très proche de moi pendant le tournage, au plateau, physiquement, hein, je veux dire, elle se tenait jamais très loin des scènes en cours. Je pouvais sentir à une respiration ou un petit ricanement ou quoi, ça pouvait déclencher en moi des fortes émotions.
C'est bizarre quand même, ce manque de contrôle, c'est pas pénalisant pour
Non mais, et pour cette scène de l'anniversaire, c'est vrai que Il y a eu deux scènes comme ça que je n'arrivais pas à jouer sans craquer, quoi. C'est très bizarre.
Mais comme encore une fois, pour sortir de l'époque, de la situation, des conditions dans lesquelles ça se passe, comme peut-être beaucoup de jeunes filles craquent en souhaitant un bon anniversaire à son papa, en lui chantant bon anniversaire.
L'émotion
du bon anniversaire papa peut fonctionner encore aujourd'hui, demain et heureusement
de tous les temps.
Mais là...
Et par exemple, la direction peut venir du fait que je sentais Rebecca très émue
par cette chanson, par tout ça.
Et à l'inverse, enfin moi je trouve qu'il fallait pas lui dire ce serait bien que tu sois émue à ce moment-là, ce serait bien que ça dérape, ce serait bien. Non, je lui ai dit fais le maximum pour bien chanter la chanson. Alors que t'es habitée par tout ce que tu sais. Et du coup, elle ne pense pas à la situation, à la situation. Et la situation, si elle est vraiment dedans, comme ça a été le cas, parce que Rebecca comprenait tout ce que je lui disais, ou parfois même sans lui dire, ça dérape là où
mais
il
c'est
faut.
Mais c'est mettre beaucoup de pression quand même sur les comédiens.
Non, parce que
j'ai énormément confiance en toi. Vas-y.
Et au contraire, en fait, quand quelqu'un vous fait confiance...
Indirectement, ça met une pression.
Non, quand on se sent... quand quelqu'un vous offre sa confiance, je pense que c'est le plus beau cadeau, mais je veux dire pas seulement d'un réalisateur à un acteur ou réalisatrice, même dans la vie, je veux dire, c'est quand même un... La confiance,
ça
on
nous
se sent
oui, mais on
ça
peut
nous...
pas décevoir.
J'avais l'impression, oui, bien sûr, il y a cette pression-là d'être à la hauteur de cette confiance.
Oui, mais de même mais que moi, je peux pas les décevoir.
Ça donne des ailes aussi. Et je pense que Sandrine, par sa courte expérience d'actrice, non, mais elle sait quand même ce qui donne des ailes ou ce qui casse un acteur. Et du coup, là, je crois que, et mes partenaires et moi, on serait tous d'accord pour dire qu'on s'est senti tiré vers le haut, mais à chaque seconde, parce que Sandrine sacralisait beaucoup le moment du jeu, justement. Sur le plateau, elle imposait un vrai silence. Donc c'était... On se sentait porté.
De toute façon, peut-être que cette confiance, Daniel, ne peut pas être trahie, puisque vous faire confiance, c'est savoir que quoi qu'il arrive, vous allez donner votre maximum.
Voilà.
Peu importe le résultat.
Exactement.
Vous ferez au mieux.
C'est vrai.
Et comme je sais que déjà, quand elle n'est pas au mieux, elle est déjà au mieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Qu'est-ce que ça
mais quand on choisit une actrice...
Alors, comment vous l'avez choisie? Parce que, encore une fois, l'affiche et dans l'annonce, je dis Rebecca Marder de la Comédie Française. Est-ce que vous la connaissiez avant? Vous l'avez vue jouer? Est-ce que vous vous êtes dit... Il faudrait, et d'ailleurs, c'est une question que je pourrais poser à tous les réalisateurs. Est-ce qu'on se dit, on va choisir quelqu'un de la Comédie Française?
Comme s'il
y avait un côté,
Pas du tout. Il y a des acteurs dans le film. India n'est pas de la Comédie Française.
J'entends.
Ben non plus. André y est allé à la Comédie Française, mais très peu. Et il est plus.
Et dans le public, en plus. Donc, franchement, ça compte pas.
Non, mais pas du tout. Non, pas du tout. Je voulais trouver mon Irène. J'avais inventé un personnage. Il fallait que je le trouve. Il fallait qu'elle m'inspire.
Il fallait qu'elle soit brune. Il fallait qu'elle soit fragile.
J'avais plutôt l'idée d'une jeune fille brune, mais je savais pas. Je voulais pas être bloquée par ça. Ce que je voulais, c'est qu'elle ait du caractère, qu'elle soit virevoltante, qu'elle soit vivante, mais aussi que j'ai envie de la filmer, que ce soit très personnel. C'est un choix presque. Comme
intime.
Quand on tombe amoureux, c'est un coup de foudre. Il fallait que j'ai ce coup de foudre, mais ça peut ne pas arriver.
Et c'est votre première fois.
Exactement. Et donc j'ai vu des filles qui étaient toutes vraiment bien, mais je rentrais et je me disais, mais je sais pas Irène, je sais pas pourquoi, elle est pas... Je peux pas vous dire, c'est un peu comme quand... Irène dit dans le film, j'aime pas sa façon d'applaudir en parlant d'un amoureux qu'elle aime pas.
Mais moi, je suis tellement d'accord.
Mais un détail, après, c'est Nietzsche qui disait le point sur le nez.
C'est chimique.
Le donc, diable se glisse dans les détails.
Il n'y a rien que j'aime pas.
Mais enfin, on peut quand même travailler avec des gens avec qui on s'entend pas.
Oui. Parce que tu travailles.
Il n'y aurait pas d'antenne, hein, sinon.
Il n'y aurait rien ici.
Une jeune fille qui va bien. Ce film, encore une fois, au-delà d'être le portrait de cette jeune fille, c'est le portrait d'une génération, mais c'est le portrait aussi d'un passage dans la vie. C'est valable dans tous les siècles, dans toutes les conditions, les situations, que ce soit dans une situation de Covid. On peut aussi se poser la question, là, comment vit une jeune fille à 19 ans qui ne peut pas aller en cours, qui ne peut pas jouer des scènes, tenir des mains parce qu'il faut un masque, parce qu'il faut des tests, ainsi de suite. On a tous, il y a toujours une épée de Damoclès.
La situation, c'est un peu moins dramatique.
Enfin, je pense qu'on vit plus du tout pareil, même si, évidemment, on ne va pas comparer l'incomparable, mais on ne vit plus... Aucun de nous ne vit la même vie depuis le 13 novembre qu'on a tous connu du Bataclan.
L'attentat,
et ça peut être une fille du Bataclan aussi. Ouais, ça peut être une fille qui...
C'est-à-dire voilà. que ça ramène, en tout cas, le parallèle se fait entre l'insouciance de la jeunesse et la
violence dureté, de l'injustice.
La violence de la vie et de l'injustice. Mmh. Exactement.
C'est beau ce que tu dis.
Et tout ça, elle qui l'a dit. Et tout ça, évidemment, avec le poids de l'histoire qui vient en plus souligner un moment de nos vies que l'on ne devra jamais, jamais, jamais oublier parce que le regard des uns, le regard tendre des uns versus le regard odieux de certains personnages donne pour certains la chair de poule, pour d'autres ça fait froid dans le dos parce que c'est on se dit que tout se joue en quelques secondes finalement dans dans la vie et c'est ça aussi qui est bouleversant et c'est très bien joué. Et
presque pire le non-regard de certains.
Oui.
Qu'il détourne.
Ouais. Le mépris. Une jeune fille qui va bien, c'est un film qui va bien et qui sort aujourd'hui, signé Sandrine Kiberlin.
Qui est complètement paniquée parce que c'est aujourd'hui le premier jour.
Mais je trouve que justement, pour revenir à ça, je trouve que à la fois les acteurs ont se sentait tirés vers le haut, mais je trouve qu'en tant que spectateur aussi, pour l'avoir revu là hier, j'avais l'impression que on en sort. J'ai l'impression que Sandrine fait tellement confiance aux humains. Que tout est dit sans être dit, montré sans être désigné, et que finalement on se sent aussi tiré vers le haut parce qu'on comprend les choses au fur et à mesure. On entre dans une espèce de
alors,
rythme.
En sortant de la salle, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de faire un câlin à ceux que l'on aime en se disant faut pas rater la moindre seconde de se le dire et de le formuler. Ça c'est évident. Et le deuxième sentiment que l'on a quand on vous voit, et là quand je vous ai vu ce matin, c'est qu'on a envie de vous protéger en disant mais c'est-à-dire que non. C'est-à-dire qu'il y a une véritable envie de vous protéger. Mmh. C'est-à-dire que, pardon, et moi je vois encore le personnage et pas l'actrice dans tous ses rôles et dans sa carrière. Et on se dit, tiens, je revois Irène, elle est là. Et il faut que je vous parle parce qu'il va se passer un truc tout à l'heure, il faut que je vous dise deux, trois trucs. N'y allez pas.
Faites attention parce que la dernière fois que Nagui a dit une jeune fille, j'ai envie de vous protéger, il a fait de la garde à vue. Alex, oui ou non?
C'était Alex, la jeune fille.
On a été le chercher.
Non, c'était lui, la jeune fille. Voici justement Alex Kobinek.
Moi, pas du tout. Voilà, sans transition, hein, je vous le dis, parce que la réouverture des boîtes était annoncée pour le lundi 24 février, et bam, ils te la foutent le 16 février. Ça va, Castex, te dérange pas trop? J'ai tellement la haine. Je me voyais déjà samedi soir, en before, finir la bouteille cul sec, parce que, Alex, il y a le Uber qui est là. Je serais monté dans la voiture, j'aurais affiché fièrement mes origines tunisiennes, et j'aurais mangé le crâne du chauffeur avec mes analyses sur la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Est-ce que je viens de supposer que le chauffeur Uber serait forcément originaire du continent africain? Complètement! Puis arrivé au Paradisio, j'aurais fait la bise au patron. Comment tu vas, Vincent? Je serais passé devant tout le monde. Est-ce que je viens d'afficher le fait que j'ai certains privilèges?
Oui!
Complètement! Racisme, privilège. Ne suis-je pas le représentant de l'homme blanc qu'on essaye d'abattre? Complètement! Les boîtes de nuit. Franchement, comment peut-on fermer ces lieux culturels? Oui, culturels. Excusez-moi, mais ça...
Ah ouais.
Ça, si c'est pas de la culture, allez Sandrine, allez Rebecca, yes, je pourrais dire que j'ai dansé avec vous sur du pitbull, alors qu'on parlait d'occupation nazie.
This is Smith von Morgan is born number.
Pardon.
Il va pas bien.
Oh non.
Je vois pas la différence entre les boîtes et les musées, franchement. En boîte, il y a des gens, ils arrivent à danser pas dans les temps. Ok,
ouais.
Pas dans les temps. Excuse-moi, mais si tu fais ça au Palais de Tokyo, on appelle ça une performance. Non, je te jure, regarde, il y a des gens en boîte, tu les vois danser, tu te dis, mais ils dansent ou ils dénoncent un truc? Mais vraiment, c'est vraiment de la performance, parce que quand tu vois, tu te dis, mais moi aussi, je peux le faire. Alors qu'en vrai, je te jure, pas du tout. Il n'y a pas de différence entre une boîte et un musée. T'as bien vu les œuvres les plus estimées dans les musées, Nagui. Hein, bah, en boîte, c'est pareil. Hein, parce que les œuvres les plus estimées, elles sont mises à l'écart. En boîte, la Joconde, immense michto. T'as pas moyen de l'approcher, tu la vois à peine. Il y a un cordon. Elle est là avec un petit sourire, elle se fout de ta gueule depuis son carré VIP.
En même temps, t'as pas envie de la draguer.
Bah, tu peux pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te rabats sur des œuvres mineures. Voilà.
Elle t'emmerde.
Voilà. C'est vrai, j'ai toujours un petit faible pour Botero. Bref. En vrai. Chacun sait où. Non, mais c'est vrai, la seule différence entre les boîtes et les musées, c'est que devant un musée, t'as rarement une meuf qui tient les cheveux de sa copine qui vomit en lui disant « Je t'avais dit, le post-impressionnisme, c'est pas ton truc. » C'est la même chose, les boîtes et les musées. Tu vas au musée d'Orsay pour voir l'origine du monde. Tu vas en boîte pour, Nagui, hein, plonger dedans. Je sais, je t'ai vu.
Oh, cette classe.
Non, mais la déprime, je veux dire, les amis, sans boîte, le samedi soir, 1h du mat, devant Laurent Ruquier, je suis au lit avec un invité politique. Avant, mes samedis soirs se finissaient par Bandemou. Ok, maintenant, c'est avec Philippe Poutou. Poutou, il a moins d'intention de vote qu'une bière sans alcool. Franchement, ma vie, elle est bouleversée, les amis. Avant, le dimanche matin, je faisais des afters. Tu sais ce que j'ai fait dimanche matin?
Non.
Le marché. Le marché, mon walk of shame, maintenant, c'est moi, sobre, avec mon tote bag, plein de légumes. Il y a une branche de céleri qui sort. Je me suis vu dans le reflet d'un resto, j'ai eu une envie de me mettre une balayette. Mais vraiment, pas d'alcool, pas de boîte de nuit, mais c'est pas ma vie, ça. Peut-être que je suis mort. Oui. Être sobre, se lever tôt pour faire une chronique sur une radio de gauchistes, finalement, c'est peut-être ça l'enfer. Hein, quelle arnaque. Moi, on m'avait promis Daniel Morin, Motorhead et des putes. Bref, samedi, je vais aller me bourrer la gueule au musée, les amis, je vous le dis. Et vous savez pourquoi on me verra danser devant du Gustav Klimt?
Non.
Parce que j'aurai du Pitbull dans mon audio guide.
Oh. Merci, avec cette communique. Fell into the ocean. La BO du film. Et c'est l'amour que vous avez pour la musique, Sandrine Kiberlin, donc j'imagine que ça a été une écriture supplémentaire. Écrire le film, le réaliser. Dans la réalisation, il y a aussi l'épreuve, je ne sais pas si c'est une épreuve, d'ailleurs le passage technique, en tout cas, du cadre, de la lumière, de la direction d'acteur, parce qu'on oublie aussi tous ces métiers concentrés dans un seul métier. Vous êtes chef d'équipe. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, d'ailleurs, entre l'écriture, la direction, la technique, le montage?
J'ai tout aimé et j'ai pas trouvé ça difficile. J'ai trouvé que c'était surprenant à chaque fois. Enfin, l'écriture, c'est laborieux. Après, ça devient amusant quand on a vraiment trouvé la trame. Après, on s'amuse à comment elle va tomber amoureuse, comment elle va stratégiquement inventer un truc pour vivre l'histoire qu'elle veut vivre. Comment et après la prépa, j'y ai mis beaucoup d'intensité parce que je savais que j'avais que 6 semaines de tournage. Donc avant le tournage, on prépare.
Il fallait que tous les costumes, par exemple, les décors, soient
les tissus, même les accessoires, le choix des couleurs, le choix des assommer parfois les chefs de poste de référence, de demander à Rebecca de voir aussi des choses pour qu'elle.
En fait,
soit...
le film, vous l'aviez vu dans votre tête déjà avant de le tourner pratiquement, non?
Ah oui, oui. Oui, je voyais les cadres, je voyais la façon dont par exemple, il y a un plan où Rebecca ne voit pas celui qu'on voit avant elle, qui va être son amoureux peut-être, ouais, dans l'histoire. Et j'avais exactement le plan, j'ai dit à mon chef opérateur, voilà, ça se passe comme
chez le docteur.
Comment?
C'est chez le docteur, c'est
oui,
ça?
Oui, chez le docteur.
Ouais.
Et parce qu'elle a des vertiges, elle va chez le docteur et on voit un garçon avant elle qui la regarde. Mais plein de choses comme ça qu'on a anticipé avec mon chef opérateur.
Il y a presque des chorégraphies que vous avez faites aussi. Je pense à un cadre où vous êtes, on est dans la rue, c'est une espèce de travelling comme ça, et où un couple avance. Et il y a deux fenêtres qui sont vraiment, alors là, c'est presque mathématique la manière dont vous avez cadré ces fenêtres. Mais
c'est bien que vous ayez vu ça.
Mais
ça
oui, c'est incroyable. Oui.
Dans le jeu, il y en a une qui s'arrête à une fenêtre, l'autre à l'autre fenêtre,
et il se retrouve et il l'emmène par la main. Avec cette musique qu'on vient d'entendre.
Exactement.
Et la musique, elle existait quand j'écrivais.
Donc vous l'aviez en tête.
Mon producteur me prenait pour une folle parce que j'arrivais, je disais là il y aura Tom Waits, il me disait oui bien sûr.
Bien sûr. Allonge-toi.
Et là il y aura René Aubry, oui. Mais alors, j'avais les musiques comme un personnage de plus. Comme
René Aubry est là. Il y a Que reste-t-il de nos amours aussi, qui est joué par l'orchestre au fur et à mesure, entre de la fuite traversière.
Ouais, que j'ai revisité pour en faire une espèce de fanfare, pour exprimer justement la fougue de la jeunesse.
C'est la légèreté.
C'est une chanson triste,
c'est
mais
ça,
qui devient légère avec Anthony Bajon, qui a appris à jouer de la fuite traversière pour le film.
On va continuer de parler de la musique dans vos vies. On est en 95-96, Sandrine Kiberlin, vous écoutiez les Beatles. Les Beatles, évidemment, ou les Beatles, parce qu'à ce moment-là, quand vous remportez le César du meilleur espoir féminin pour En avoir ou pas, ça correspond à quelque chose de précis.
Oui, ça m'a évoqué cette chanson, parce qu'on a besoin d'amour quand on devient actrice, on a besoin de rentrer dans cette famille du cinéma, on en rêve. Et donc, All You Need Is Love, je sais pas, ça m'a fait penser à à l'amour dont on rêve et qui devient presque concret avec ce César de l'espoir. L'espoir, c'est comme si on rentrait dans l'amour des gens qu'on a admirés.
Avoir besoin d'amour quand on rentre dans un métier, parce que c'est un métier qui est fait du regard des autres et où on a besoin de l'autre pour exister. On ne peut pas le faire seul, comme écrire un livre, peindre une toile ou faire une sculpture.
Vraiment l'objet de désir. Ouais.
Et en même temps, on n'a pas les codes. On ne sait pas où sont les limites, ce que l'on doit accepter, refuser, ce qui peut être un geste déplacé ou au contraire un geste attentionné.
On
sait rapidement ce qui est déplacé, ce qui est attentionné.
Oui, on sait. Parfois, d'autres n'ont pas su. Moi, j'ai toujours su. J'ai eu cette chance de toujours savoir où...
Mettre le voilà quand il fallait.
Oui, ou j'ai eu de la chance de tomber sur... J'ai jamais eu ce genre de situation à vivre. Mais
vous l'avez sûrement
quand
entendu.
Je parle de l'amour des professionnels, oui, c'était l'amour de la reconnaissance de mon travail, quoi. La reconnaissance de et je me souviens de gestes ou de coups de fil de mes pères d'actrices qui m'ont appelé ou qui m'ont dit bienvenue, enfin comme vraiment une bienvenue
Je repense aux cours de théâtre que vous évoquez dans le film où malheureusement il y a aussi des prédateurs qui font miroiter des choses, beaucoup de choses à des actrices et à des acteurs. Ça marche vraiment dans tous les sens. J'accuse personne en particulier, mais c'est vrai que c'est un moment où les jeunes actrices et jeunes acteurs ne savent pas jusqu'où il faut aller. Il y avait un film qui s'appelait
Bienveillance ou si
oui,
c'est
il y avait un film qui s'appelait Prêt à tout que Nicole Kidman avait joué d'ailleurs. Il faut aller jusqu'où pour accepter
moi,
de jouer. Il y a ceux qui font des stages en disant devant tout le monde, tu prends une douche, alors vas-y, déshabille-toi, prends ta douche, et qui vont jusqu'à l'humiliation alors qu'on est juste dans un cours de théâtre.
Moi, c'est pas du tout le propos du film, parce que je me
raconte. Pas dit ça.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'on se raconte souvent quand on écrit un premier film en plus. Moi, je raconte justement la chance que j'ai eue de tomber sur des professeurs. En l'occurrence, c'est même un hommage au cours de théâtre. Ce qui était le lieu de tous les possibles, de le lieu où personne ne rentre en dehors de nous. C'est pour ça que la caméra, j'adore la faire rentrer là où on n'a pas le droit de rentrer normalement. C'est le lieu du travail, de l'artisanat. Et il y a un prof avec les élèves qui dit la tête un peu plus comme ça, non cette réplique un peu plus. C'est au mot près, à la virgule près.
C'est de la mécanique là.
C'est un peu c'est des intentions de l'artisanat, de la justesse, quoi, comme les instruments de musique, avec le prof qui vous aide à trouver la justesse, quoi.
Ouais.
Mais j'ai jamais eu ni envie ni besoin, mais je comprends très bien qu'on puisse vécu d'autres choses. Mais moi, en tout cas, c'était la bienveillance des professeurs et des cours d'art dramatique.
Rebecca, vous avez vécu cette même bienveillance dans vos cours
d'art aussi ? Vraiment.
Super.
Et puis là. Cette rencontre avec Sandrine aussi, c'est vrai que j'ai l'impression, de la part d'une actrice envers une autre actrice, là, sa générosité, je veux dire, de m'avoir offert une telle palette de jeux, c'est quand même... je trouvais ça trop beau. Donc j'ai quand même eu de la chance. Oui, moi, j'ai eu un accueil tellement bienveillant, malgré ma verdeur à la Comédie Française, que je suis rentrée à 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 26, presque 27. L'âge de la... Mordez, Rocard. Non, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas si loin, mais en fait, ça commence à être loin. Mais j'ai eu vraiment pareil, un accueil tellement bienveillant que voilà. Et les cours de théâtre, pareil. Non, j'ai eu la chance de pas rencontrer de prédateurs.
95, oui. C'est votre année
c'est
de naissance, oui, et la musique de
nous
95.
Nous sommes de jeunes artistes, joyeux et fantaisistes. Pour nous, c'est un grand jour.
Du gros R&B en tout cas.
C'est les petits cochons.
Ouais, les trois petits cochons.
Votre maman, critique de Théâtre Monde et à Libération, vous fait découvrir justement le monde du jeu, du théâtre.
Alors ma mère, elle m'a beaucoup. Enfin, j'ai eu la chance entre mes 0 et 13 ans d'aller beaucoup au théâtre, mais en fait, elle s'est retrouvée au chômage quand j'avais 13 ans. Donc j'ai pas. Après ça, c'est un peu moi qui ai tracer ma route au théâtre, parce que je pense que elle c'était sa hantise, enfin elle a tout fait pour me décourager et casser de projet en projet tout ce que je faisais. Donc en fait parce qu'elle savait à quel point c'est un métier aléatoire et de chien, Et c'est mon père musicien qui d'ailleurs a écrit cette musique des Trois Petits Cochons.
Contrebassiste, ouais,
contrebassiste et compositeur qui m'a plus soutenue là-dedans. Il m'a inscrite à toutes les activités possibles, chorale, solfège.
Ça, c'est
piano.
son côté américain, c'est-à-dire l'amour de tous les arts sans qu'il y ait de cloisonnement, de frontières.
Oui, en
France, on a beaucoup d'étiquettes. Hein. C'était un acteur
de moins en moins.
Ouais, enfin, il y a côté acteur, chanteur. C'est limite. Il y a toujours ce côté.
Pourquoi? Disait Laurent Lafitte qu'il avait été, il était parti en Angleterre pour ça. Justement.
C'est exactement. Et là, c'est ce qui vous a apporté une ouverture d'esprit.
Oui, c'est vrai. Bah oui, je pense que dans le sens, à l'américaine, c'était pas un stage father, genre qui pousse l'enfant singe à aller faire les trucs. Mais c'est vrai que il m'a vraiment soutenue en tout cas dans ce désir-là. Et c'est sûr que oui, c'est peut-être un truc à l'américaine de danser, chanter, faire du théâtre, du piano, il m'a toujours ouvert à tout ça.
Quelle est la notion supplémentaire? C'est ne te soucie pas du regard des autres, mais prends du plaisir, c'est ça?
Oui, peut-être, ou aussi, je pense que c'est dans un truc d'éducation, j'ai l'impression que là-bas, à l'école, déjà, les élèves, ici, on a des cours de musique et d'art plastique, mais parfois c'est un petit peu dévalorisé, j'ai l'impression que c'est un hobby, mais c'est pas forcément alors que aux États-Unis, mon père a quitté le lycée pour rentrer genre dans l'école Fame à New York,
comédie musicale.
Oui, après il était à Broadway en tant que contrebassiste, et donc je pense que, et il est arrivé très jeune en France pour jouer à l'IRCAM avec Pierre Boulez, mais je pense qu'il m'a
tout de suite. Il a écrit des morceaux pour mon film
et il a composé les musiques du film de Sandrine aussi. Ils se sont rencontrés pendant le tournage, je l'ai présenté. Mais donc voilà, non, c'est vrai que c'est, il y a peut-être, je sais pas, ce qui fait que c'est plus ouvert et plus accessible, je sais pas.
En tout cas, il y a une différence d'esprit et de mentalité avec la comédie française où vous y retrouvez cette même appétit de tout faire et d'ouverture d'esprit.
Oui, c'est vrai que à la comédie française, il y a,
C'est ce qu'a réussi Eric Ruff, en tout cas,
avec une ouverture
qui n'était pas qu'avant.
Très inspirant d'entrer sous son joug à lui. Non, mais vraiment, parce que j'étais son premier engagement en 2015. Et c'est vrai que la troupe, elle est au sommet de sa beauté. Il y a une énergie de travail c'est un rythme assez incroyable qui vous. Parfois, on est amené à jouer 6 fois par week-end, 4 pièces différentes. Donc, en fait, pour l'acteur, c'est un luxe.
Pourquoi la quitter,
de se muscler comme ça. Parce que donc je suis rentrée à 20 ans. Et
j'ai appris ça ce week-end. Rebecca Marder quitte la comédie française.
Oui, c'est vrai. J'ai démissionné, mais je joue encore jusqu'au mois de février. Mais j'ai démissionné après 7 ans de maison. Et je sais pas, je m'accroche à des coïncidences peut-être un peu niaises, mais je me dis que c'est l'âge de raison, que c'est le 7 ans, c'est le renouvellement des cellules. Je sais pas, cette paix d'Égypte, je sais pas. Non, horrible. 7 ans de réflexion. Non, je sais pas. Je me dis que entre 20 et 27, c'est vrai que c'est mes fondations, moi, la comédie française. Ça a été, un apprentissage de luxe, et au-delà d'un apprentissage, j'ai pratiqué mon métier comme je pense jamais et nulle part ailleurs on le pratique. C'est ce que je disais, c'est qu'il y a un truc presque d'athlète, on se muscle.
Quand t'as 27 ans, on dit je démissionne de la comédie française.
Oui.
On a peur, je fais peut-être une bêtise, ou on se dit j'ai une chance incroyable d'y rentrer
Tôt.
Ouais.
Mais je me dis que 7 ans, c'est un long temps déjà, entre 20 et 27, c'est aussi des âges où on change.
On parle de virage dans les couples.
Ouais, c'est ça. 7 ans, c'est 7 ans de réflexion. Mais j'ai évidemment un grand vertige, et puis là, comme je continue à jouer le soir, j'ai l'impression d'avoir que mon corps a sauté de la falaise et que ma tête est encore dans ma loge en train de se préparer tranquillement.
Donc, vous dites souvent des trucs bizarres comme ça pendant la journée.
J'adore. C'est vrai.
Non, mais oubliez-le. J'adore. Elle parle
non, mais
elle est pas bête. Hein.
C'est vertigineux.
Elle parle.
Elle est pas bête. Hein. C'est mon actrice.
J'aime bien. Elle est pas belle. ma police, regardez.
Elle est pas bête. C'est mon actrice.
Oui, j'ai peur, bien sûr. Mais je vais connaître aussi ce que c'est que de voler par ses propres ailes, parce que c'est un peu une famille.
Voler à manger.
Non, mais c'est ça. Et puis d'être. Je vais savoir ce que c'est que la vie d'acteur normal, en fait, comme 99% des acteurs qui sont dans la nature et qui travaillent à un rythme un peu moins intense et
avec l'intermittence, avec le doute, avec le désir, avec le questionnement, c'est ça,
la promiscuité.
Mais aussi l'envie d'initier des choses, donc la possibilité de réfléchir aussi et d'inventer et d'avoir un peu de temps pour ça.
Vous avez demandé conseil autour de vous, et si oui, à qui, de savoir si vous deviez ou pas quitter la comédie française.
Alors, j'ai demandé conseil à Sandrine, et j'ai demandé conseil. Une fois que, non, j'ai plutôt, c'est une fois que j'ai pris ma décision. Ma mère, le jour où je lui annonce, elle est, évidemment, elle était à la fois peureuse et en même temps, elle m'a dit bravo, c'est courageux, et était restée un certain nombre d'années, et voilà. Et le lendemain, Apocalypse Now, qu'est-ce que tu vas faire? Et les variants au micro avec tous les tournages qui s'annulent, qu'est-ce que tu vas faire? Donc voilà. Mais non, mais j'ai demandé conseil, bien sûr, à tout mon entourage et même dans la troupe. Donc, Non, c'est vous, ça restera toujours ma famille.
Vous l'avez encouragée, Sandrine, à quitter la Comédie Française?
J'ai vu qu'elle était décidée et je pense que Rebecca a un avenir devant elle. J'ai pas de... Je pense qu'elle va affronter une autre réalité et qu'elle a les armes pour. Et qu'elle a le talent pour et que le cinéma a besoin de Rebecca aussi.
Vous pourriez téléphoner à sa mère parce qu'elle a besoin d'être rassurée.
Mais on se parle, on se parle.
Elle parle au père aussi, je crois qu'elle parle à toute
père,
la famille.
Oui, ouais, ça y est, j'ai tout le monde en
rencontre. Ah bah dimanche, de toute façon, elle est à table à midi. Hein. on va continuer de parler de cette jeune fille qui va bien, et ce titre colle extrêmement bien aussi à ce que vient de nous expliquer Rebecca Marder dans sa vie aujourd'hui. Mais là, on va repartir justement dans cette période de guerre de 39-45 avec vous, Dominique Missica, merci. Bonjour. De venir à ce micro. Vous êtes éditrice, journaliste, historienne. Vous avez publié avec Bénédicte Vergès-Chaignon « Nous, les enfants de la guerre 39-45 » aux éditions Taillandier. Le film le prouve d'ailleurs. On peut avoir été un enfant, un adolescent ou une adolescente pendant la guerre et aller bien.
Il est vrai que ce film est absolument bouleversant et juste. En effet, les enfants, alors je me suis intéressée aux enfants, la tranche d'âge en dessous.
J'entends.
Mais les enfants sont comme les adolescents. Oui, on peut continuer à jouer à la poupée, à jouer aux billes, à fabriquer des cabanes, à aller aux séances de guignol. Oui, bien sûr, la vie continue. D'autant plus que pour les enfants, ce qui est très particulier, c'est que dans les années 40, on ne parle pas beaucoup aux enfants de ce qui se passe. On ne leur explique pas grand-chose. Donc, ils sont un peu tenus à l'écart par la force des choses. D'autant plus que, par exemple, les petits Parisiens ou les petits Alsaciens sont évacués vers le sud de la France ou à l'ouest, de peur dès 39, dès la déclaration de guerre, parce qu'on a peur des bombardements. Donc en fait, la guerre va aller très vite pour les enfants. Elle va très vite bouleverser leur univers, tout en évidemment étant protégés par le fait d'être des enfants. Mais c'est que vécu à hauteur d'enfant, c'est effrayant. On quitte chez soi, on a peur des bombardements.
Ouais, on parle souvent de l'insouciance quand on est enfant, mais les enfants sont aussi très souvent conscients et très conscients de ce qui se passe. Et il y a sûrement d'ailleurs ensuite une forme de résilience, qu'on ne peut pas oublier non plus.
Non, on ne sort pas indemne. Les enfants ne sont pas sortis indemnes de la guerre. On s'en est pas vraiment soucié, on s'en est pas vraiment penché. La psychologie infantile date des années d'après-guerre. Mais ils n'en sont pas sortis indemnes. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des orphelins. Il y a 90 000 soldats tués en 40. Il y a 1 800 000 prisonniers de guerre qui sont absents de 40 à 45. Il y a des enfants qui voient revenir leur père dont ils n'ont aucun souvenir. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Ils sont donc le retour entre guillemets à la normale. Bof. Ils sont devenus des petits délinquants. Ça arrive. Ou alors ils ont un appétit de vivre, un goût de la revanche. Ils voient débarquer les Américains, le chewing-gum, le chocolat, des choses qu'ils ne connaissaient pas.
La fin des tickets de rationnement aussi.
C'est 47. Oui, c'est tardif. Donc la guerre, elle s'étale sur de nombreuses années.
Donc on n'en sort jamais.
Non, je crois qu'on ne sort pas indemne. D'abord, qui ne se souvient pas de son enfance? Je veux dire, et là, c'est une enfance particulièrement bouleversée avec des adultes qui sont eux-mêmes perdus. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement difficile et douloureux pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils voient des parents qui sont perdus. Et parfois, les enfants étaient plus débrouillards que les parents. On a vu des enfants faire passer des lignes de démarcation parce qu'ils sont du coin, de la forêt, qu'ils connaissent les chemins et prendre des initiatives. Comme on a vu des enfants brisés par les enfants juifs en priorité, ont été cachés, niés dans leur identité, ont perdu tous leurs repères. Donc, personne n'en sort indemne. Simplement, on a enfoui tous ces souvenirs et ils sortent petit à petit, souvent au moment de... D'ailleurs, quand j'ai sorti ce livre sur les enfants, ce livre illustré sur les enfants, sur la guerre, j'avais compris que dans les salons du livre, je voyais arriver des messieurs et des dames avec des cheveux blancs. Je me disais, voilà.
Ils sont concernés.
Voilà.
Et vous avez reconnu cette justesse dans le film Une jeune fille qui va bien.
Tout à fait. C'est-à-dire j'ai surtout retrouvé Hélène Baird. J'étais bouleversée parce que Hélène Baird, qui est cette jeune fille qui tient son journal pendant la guerre, préfacé par Patrick Modiano, qu'on a retrouvé déporté à Auschwitz, et qui se promène dans les rues de Paris, qui est dans le soleil, les jardins, le Luxembourg, la vie est heureuse et belle. Et puis, elle doit porter ce fameux insigne. C'est exactement... Et c'est pour ça que je trouvais que le film était bouleversant et juste. Parce qu'il est vraiment ce qui a été vécu par ceux et celles qui ont connu cette période.
Elle dit, il fait toujours beau les jours de catastrophe.
Exactement. Et on le sent très bien. J'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable.
Mais Modiano, il insistait sur le fait que les gens avaient une image figée de cette époque, alors que les gens vivaient plus, allaient plus au cinéma, que les gens se serraient les uns contre les autres, il y avait plus de monde dans les salles de spectacle, plus de...
Oui, il y a des amours qui sont nés aussi.
D'où l'intérêt de cet éclairage. Merci Dominique Missika d'être venu à ce micro. Je rappelle, Merci. Nous les enfants de Merci. La guerre pour 9-45 aux éditions Taillandier. Bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Je vous parle de Michel Sardou, de Jean Lassalle, de Marco Mouli, de Roff et de vous Nagui.
Avec Morgane Gavignan, avec Alexandre Cominet, Tanguy Massureau, Daniel Morin, nos invités, Rebecca Barder et Sandrine Boucher. Avec ce film Une jeune fille qui va bien, Rebecca Marder sous la direction de Sandrine Kiberlin, avec André Marcon, Anthony Bajon, Françoise Widoff, India Air, Florence Viala de la Comédie Française, Jean Chevalier de la Comédie Française, on voit où vous êtes garés pour aller faire vos courses, Ben Attal, Cyril Metzger, et puis la musique aussi de Papa Marder. Alors comment c'est faite cette musique? C'est-à-dire que c'est sur le plateau, elle vous a fait écouter de la musique et vous a dit pourquoi pas dans le film? Comment c'est passé?
Alors en fait, j'avais des musiques déjà, pratiquement toutes les musiques du film étaient dans ma tête, mais il manquait les thèmes originaux qui notamment marquent
une sorte de didascalie, les passages quoi.
Oui, les passages surtout qui marquent l'attente quand Joe disparaît, il y a son meilleur ami qui disparaît, il y a justement toutes les tensions puisque c'est un peu deux films en un.
Mais par exemple, cette musique, c'est celle de votre papa?
Non, ça c'est Philippe Glass. Glass.
C'est Philippe Glass, ouais. D'accord.
Ça c'est la fin du générique.
Oui, c'est pour ça, c'est générique de fin.
Ouais. Non, Marc, il a fait vraiment toutes les petites...
Je les ai pas, j'ai tout, j'ai Offenbach.
Ah oui, c'est les petits thèmes originaux qui...
J'ai Métronomie.
Qui ponctuent l'attente.
D'accord. Ouais.
C'est des morceaux plus courts, mais qui reviennent régulièrement.
À la clarinette.
En fait, Rebecca m'a dit, mais mon père, si tu veux, parce que je cherchais donc ces petits thèmes.
Un compositeur.
Me dit, voilà, et mon père est compositeur. Je dis, je veux bien écouter. Et puis, j'ai tout de suite flashé sur un morceau que j'ai mis tout de suite au montage sur une séquence et ça n'a pas bougé. Et le reste des morceaux ne fonctionnait pas sur les autres. Mais j'ai appelé Marc, je lui ai demandé de regarder le film et s'il avait des idées, de me proposer des choses. Et c'est lui qui a créé donc la musique des autres petites séquences.
Quel sentiment on a? Le film est réussi, je le rappelle, ce film qui sort aujourd'hui. Merci. Quel sentiment on a, Sandrine Kiberlin, lorsque on est seul maître à bord, lorsqu'on est Dieu, qu'on décide de l'écriture? Non, mais c'est vrai, c'est un sentiment incroyable. Tout à l'heure, vous avez précisé que vous choisissiez tout, des accessoires, de la couleur, des vêtements, les coiffures, le maquillage, la direction d'actrices et d'acteurs, évidemment l'écriture, la réalisation, le cadrage. Vous parlez maintenant du montage où évidemment vous étiez, de la bande-son. Qu'est-ce qui vous a... D'abord, est-ce que quelque chose vous a échappé? Ou est-ce que justement le plaisir de vous occuper de tout...
Rien ne lui échappe.
Rien ne lui échappe?
Non, rien.
Elle a un sens du détail extraordinaire.
Non, j'ai adoré. C'est comme un peintre, je pense, qui s'attelle à sa toile et qui va faire son tableau jusqu'au bout. Effectivement, je suis emportée. Je vais jusqu'au bout de tout. J'avais une idée sur tout, mais je me suis entourée de très bons aussi pour... Ouais. Pour qu'ils me suivent là-dedans et qui même
Quelle directrice d'acteur ou d'actrice est-elle, Rebecca ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle jouait une scène en vous disant il faut la faire comme ça, ou est-ce qu'au contraire elle vous donnait les intentions en vous laissant libre ?
Non, elle ne jouait pas la scène pour montrer comment faire. Au contraire, non, c'était vraiment assez subtil, en très peu de mots, elle réussissait à nous faire comprendre, la situation. Et puis aussi,
elle faisait passer sa méconnaissance pour du respect, vous voulez dire, c'est ça.
Non, mais vraiment, elle avait tellement travaillé en amont.
Il n'est pas venu, Nagui, aujourd'hui.
Il est malade.
Il n'est pas bien.
Le gentil que vous avez connu,
oui, on a le double maléfique.
C'est dead.
Non, mais c'est vrai.
C'est tellement 2021.
Elle était quand même incroyable, parce qu'elle avait tellement travaillé en amont. Le scénario, il n'y avait pas... tous les dialogues étaient très, très écrits, et il n'y avait pas de place pour... Une improvisation, un petit mot poubelle du genre je vais. En fait, tout était tellement.
Je connaissais pas l'expression mot poubelle. J'adore.
Non, mais d'impro un peu poubelle.
Ouais,
Sandrine nous donnait un cadre tellement. Enfin, c'était tellement cadré et elle avait tellement travaillé en amont, que ce soit à la technique ou artistiquement. Enfin, il y avait tout était là. Ça nous offrait une liberté incroyable.
Alors, est-ce que par exemple dans la manière d'embrasser un garçon au cinéma,
Sandrine m'y met toutes ces scènes là. Non,
je les ai jouées toutes avec tous les garçons.
Avec tous les garçons.
Et je trouvais ça très important de donner le rythme.
Rebecca, je ne connais pas votre manière d'embrasser dans la vie ou de caresser un visage, mais j'ai trouvé qu'il y avait.
Ça, c'est très chorégraphié.
Exactement. Oui. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il y avait une chorégraphie.
Non, là, on peut pas laisser les acteurs. Moi, je l'ai vécu, c'est un enfer de dire allez-y, embrassez-vous. Ouais. Parce que c'est d'une impudeur. Et ça passe très bien, en revanche, quand vous dites voilà, là, Rebecca, tu vas.
Ta main va passer
par sa nuque. Lui, il faut qu'il descende sa main sur truc. La caméra va vous suivre à ce moment-là. Rebecca, je disais à Cyril Metzger qui joue Jacques, l'amoureux, reprend son visage, regardez-vous, juste après avoir fait ci. Tout était, mais. Très très réglé pour après qu'ils aient l'impression que c'est une demande de ma part, c'est pas allez-y embrassez-vous.
Il y a même un cours de bisous donné par le frère, c'est-à-dire
oui, c'est vrai.
Anthony Bajon,
moment un peu gênant, mais c'est, mais rigolo entre frangin frangine, sans aucune arrière-pensée, en
disant
j'adore.
Et ça, je Morgane. Sais pas si c'est de la direction d'acteur de Sandrine ou vous vraiment ce que vous êtes, mais ce qui est important de dire aussi et que moi m'a séduit dans votre personnage, c'est qu'il y a le mot jeune fille. On vous voit sur l'affiche avec la petite jupe, vos cahiers très sérieuse, mais elle est pas du tout précieuse.
Non.
Quand elle court, il y a ce moment où elle se resserre à table,
elle mange,
elle vit, elle est à pleines dents et dans la manière d'embrasser aussi. Et ça, il y a forcément un peu de vous là-dedans.
Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est sûr. Je pense. Il y a un peu de Sandrine, un peu de moi, un peu d'Irène. C'est une rencontre de trois personnes qui se retrouvent. Non, mais c'est vrai. Je crois que moi, j'ai fait deux rencontres, celle de Sandrine et d'Irène. Et puis moi, je pense que forcément, j'ai dû apporter aussi quelque chose d'un peu.
Rien.
Rien du tout. non, mais j'imagine qu'il y a un peu de nos. Il y a un peu de nos trois énergies. Et évidemment que Irène, c'est Sandrine. Donc je rencontrais un peu les deux. Et je pense
que. C'est ça que j'attendais d'ailleurs en trouvant Rebecca. C'est quelqu'un aussi qui allait transformer, enfin apporter, être plus encore que ce que j'avais imaginé.
Il y a une chose quand même si on ne peut pas en parler, mais que j'ai besoin de vous dire, c'est que la fin est scandaleuse.
Ouais, mais
on n'en parlera pas, mais elle est scandaleuse. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une fin comme ça au cinéma. Je suis jamais sorti d'un film dans un tel état. C'est une claque.
Mais scandaleuse, on a l'air d'un mot péjoratif.
Non.
La fin est parfaite.
Non, elle est choquante.
Mais la fin,
c'est une gifle, c'est
le film, existe pour la fin. Je veux dire, tout ce calme et cette.
Tu as raison. Non, je retire le mot. Non, c'est pas scandale du tout, le mot mal choisi. C'est un choc, c'est une.
Mais c'est le choc de ce qui s'est passé, en fait.
Ouais. C'est bouleversant.
Mais sauf qu'on ne peut pas dire ce qui se passe.
Non.
Mais c'est rien n'est montré, une fois de plus, rien n'est dit, donc on ne peut rien dire et rien expliquer. Sauf que. C'est aussi fort, j'allais dire, j'espère en tout cas. Ma volonté, c'était que ce soit aussi fort que quand à 13 ans, on lit le livre d'Anne Frank et qu'on n'a pas la page d'après. On s'attend à lire un journal et donc à lire le jour d'après et on n'a pas le jour d'après. Et pour cause.
Et India Air, dans cette scène avec vous, dans cette scène finale, est totalement bouleversante. Elle l'est déjà avant, même quand elle se déguise en garçon, quand elle remplace Joe comme au pied levé. Oui. C'est extrêmement drôle,
c'est
vivant.
Aussi.
Ces scènes, moi je repense encore une fois, le dictionnaire, le joyeux anniversaire, la scène avec India. Enfin bref, il y a des scènes extrêmement
fortes. Merci pour cette mémoire
qui
vive comme ça. Là. Non,
mais qui marque, parce qu'on on est presque dans le film à travers les yeux des acteurs et des actrices quand elles vivent ces moments-là. Je dis elles parce que ces trois scènes marquantes sont des scènes de femmes de différents âges, à différents moments, mais extrêmement fortes et réussies. Une jeune fille qui va bien,
beaucoup.
C'est aujourd'hui au cinéma. Un homme qui va bien, c'est maintenant, c'est Tanguy Passureau.
Aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Oh, bon anniversaire!
Non, mais attendez. Faux. Surtout pas de chanson, pas de joie, ni d'effusion, pas de bonne ambiance. Je veux que cet anniversaire me ressemble. Hein, d'autant qu'à mon âge, l'anniversaire, on n'en a plus rien à faire. On calcule juste le nombre d'années qui reste pour faire ce qu'on n'a pas fait. Alors moi, j'ai voté à gauche, pratiqué le bondage, écouté M. Pokora sans éclater de rire et apprendre à enfiler une couette dans une housse de couette. À l'âge que j'ai, 48 ans, je sais, je ne les fais pas. Bon. Chaque année qui passe est une année où on se lève de son lit avec plus de difficulté. Moi, je me suis installé un système de poulies avec une corde. Le seul souci, quand on a en permanence une corde au-dessus de soi, c'est qu'il ne faut pas arrêter le Xanax. Parce que là, Anne Hidalgo, je lui déconseillerais d'avoir une corde. Hein, son mari lui a même retiré de la douche le rasoir pour ses jambes. Et dans l'appart, il n'y a plus de mort aux rats. C'est normal, les rats, ce sont comme ses enfants.
Ses
qui tue ses enfants à part Goebbels au moment de l'arrivée des Soviétiques ou Véronique Courgeot au moment des soldes d'Arty sur les congélateurs.
Oh.
Oui, j'ai voulu une chronique anniversaire, bon, un peu festive. Non, mais à mon âge, se lever chaque matin est un défi. Je serais capable de me noyer dans un matelas à eau. On en discute parfois avec Daniel Morin quand il m'invite dans son appartement qu'il a mis en viager. Il me dit t'as mal où ? Je lui dis au dos, au genou, à la hanche. J'ai ma tendinite. Lui me dit ah bah du coup on peut pas faire l'amour. Je lui dis c'est vraiment pour ça que tu m'as invité. Et là il se met à pleurer en parlant de sa solitude. Enfin de belles soirées quoi. À l'âge adulte les anniversaires c'est nul. Quand on était enfant on faisait des goûters, la grande vie, Fanta, Palmito, Double Gum, là. Mais si aujourd'hui j'invite des amis à un goûter et qu'on joue à chat, ça va paraître décalé. J'ai grandi, je ne joue plus à chat, je joue à fauve, c'est la même chose mais avec des vieux en imprimé léopard à Cannes, on appelle ça balade du dimanche. Bon. Bref, c'est mon anniversaire, donc vous avez sans doute envie que je vous raconte mon histoire, mon parcours. Oui. J'imite votre voix intérieure, Nagui.
Oui.
Non, casse-toi, j'imite votre voix intérieure, Morgane. Mais qu'est-ce qu'on est venu foutre dans cette émission ? J'imite la voix intérieure de nos invités.
Okay.
Voici donc ma bio. Je suis né le 26 janvier 1974 à Pessac, en Gironde. De la maternité à mes 43 ans, il ne se passe rien de notable. Je grandis en Bretagne, au milieu des vaches et des canettes. Puis en 2018, en boîte, je croise Nagui, debout sur une table, en slip, qui fait la fête. Il ne sait pas le malheureux que 2 ans plus tard, il y aura le Covid et que 4 ans plus tard, sa femme le trompera. Il est accompagné de ses proches, Samina Seri, Joe Star, Roff, Seth Gecko, les Lopez du 36, des Gitans, et par hologramme, puisqu'ils sont alors en prison, Bernard Madoff et Marco Mouli. Moi, je suis sur la piste de danse, occupé à faire exulter ce corps qui déjà mobilise ses dernières forces sur du gangsta rap. Quand soudain, Jean Lassalle, ivre, donc tout à fait normal, vient me voir et me dit je réponds, bon, j'ai rien compris. Il me dit je déclenche Google Traduction, langue de départ type ivre, langue après traduction français d'ordre classique. Je lis le texte suivant. Nagui te veut dans son émission, il a trop de belges, il lui faut un quota français. Et c'est là que nous remplissons tous deux ce CDI sur les fesses d'Afida Turner, qui remue tellement que le contrat à un moment entre en elle. Je pense qu'elle l'a toujours. C'est le seul texte qui fait partie de sa vie. Vous me dites alors, Nagui, on s'en fout du contrat écrit, chez nous les honnards, c'est le contrat moral qui compte, et vous commencez à vous trancher le poignet en criant « Allez, on fait le pacte du sang !» tandis que je m'évanouis, comme à chaque fois, à la vue du sang. Si j'avais été une femme, j'aurais passé 3-4 jours par mois inconscient, étalé dans la salle de bain. Hein, puis je me suis réveillé, en fait, tout ça n'était qu'un rêve, bien sûr. Nagui, votre vie, en fait, est d'un ennui absolu, mélange de thé vert et de graines de chia. Hein, la fois, on a vu Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, je me souviens qu'il vous avait dit « Allez, lâche-toi un peu, mec !» Alors bien sûr, on pourrait parler de moi pendant des heures, mais j'aimerais avoir une pensée pour d'autres stars nées le 26 janvier. Je pense à Angela Davis, qui s'est battue pour les droits civiques, Michel Sardou, qui s'est battue pour le Connemara. Hein, sans lui, personne ne saurait en France que ça existe.
existe. Depuis, chaque mois, il a 80 demandes d'office du tourisme. La région Pays de la Loire lui a proposé 160 millions d'euros pour qu'il fasse une chanson sur le Marais Poitevin. Hein, le Qatar, 4 milliards plus 12 esclaves. Hein, parce que là, ils savent plus quoi en faire. Maintenant que les stades pour le mondial sont terminés. Enfin, là, ils sont 16 000 sur la réfection du portail de l'émir. C'est ridicule, ça fait trop de monde. Le facteur peut même plus accéder à la boîte à lettres. Était aussi du 26 janvier Bernard Tapie, Michel Delpech, Paul Newman et Eddie Van Halen. En fait, wow. Avec Sardou, du 26 janvier, on n'est plus que deux à être vivants. Hein, il y a un site qui s'appelle anniversairecelebrité.com, en fait, qui recense les annives des gens connus. Et à la page 26 janvier, j'y suis.
Mais non.
Si, entre Sarah Rue, une actrice de série américaine, et Kiki, la peluche pour enfants, née le même jour que moi, 26-1-74. Hey. Alors Kiki a moins vieilli que moi, parce que moi je n'ai plus de tétines et je porte des vêtements. Alors pas par choix, hein, c'est la société qui m'impose ça, bien sûr. Hein, j'aimerais retourner à mes anniversaires d'enfants quand tout le mois de janvier je pensais au fait que peut-être j'aurais un vélo. Maintenant, tout le mois de janvier, je me demande si les impôts vont me restituer le trop versé sur les revenus de l'an dernier, mais ça n'arrive jamais. Je savais pas enfant qu'être enfant c'était si bien, sinon ben j'en aurais plus profité. Tempus fugit, tout ça. Allez, bisous.
Wow. Et bon anniversaire.
Merci monsieur. Oh là là, écoutez
ça. Ah, ça va le mettre bien à l'aise, ça.
Allez, bon anniversaire.
Allez, ouais.
Allez.
À toi, j'ai à l'aise, hein.
J'ai l'impression d'être au Buffalo Grill.
La salade de bienvenue.
Voilà, voilà, c'est ça.
À volonté. À volonté.
Mais encore heureux. Que vous allez...
Mais tu penses que.
Mais
tu
je veux pas croire que vous allez au Buffalo Grill, vous. Mais... Avec votre réussite.
Mais si tu savais.
Alors, bah,
il a acheté les Buffalo Grill. Moi, je suis à mon niveau, je vais plus. Hein.
Cette jeune fille, finalement, un peu, puisqu'il parlait de sa jeunesse, Tanguy, elle découvre le monde avec son insouciance, avec la réussite ou pas à un concours. D'ailleurs, vous, tout à l'heure, vous disiez qu'on était dans les cours de théâtre avec la caméra. Seul moment où on reste de l'autre côté de la porte, au moment d'audition. Là, nous, on n'a pas le droit d'entrer.
Mais oui, c'était le souvenir que j'avais de ma propre audition au conservatoire. Ça se passe entre ceux qui nous jugent et nous, et personne derrière la porte ne sait ce qui se passe à l'intérieur.
Donc il y a
à la... pas, personne ne peut témoigner, ouais, hors ceux qui étaient dans la salle, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et j'aimais bien que le spectateur devine à quel point ça se passe à ce moment-là entre les juges et les acteurs.
C'est-à-dire que vous aviez envie que dans l'insouciance de cette jeune fille, il y ait aussi des rendez-vous avec des...
Elle est insouciante, mais elle vit des angoisses de son âge.
Peut se jouer maintenant. Est-ce que je vais être reçu ou pas? Qu'est-ce qui va se passer?
Il y a des étapes à franchir et qui sont des étapes de vie, des étapes de joie, des étapes de rêve, d'espoir, c'est ça, avoir 19 ans.
Et puis elle est insouciante, mais elle n'est pas complètement écervelée ou inconsciente. Elle somatise beaucoup, elle fait ses malaises qui l'extraient justement de l'espace et de la période. Donc en fait, son corps la trahit aussi, elle n'a pas complètement des œillères. Elle vit sa vie, mais elle est quand même pas non plus complètement
jusqu'à
déconnectée.
Jusqu'à la fin du film, elle veut pas leur donner, elle se retourne pas.
Elle se retournera pas, elle leur offrira pas ce cadeau-là.
Elle les regarde pas, elle regarde que ce qu'elle veut vivre.
Oui.
Cette insouciance, cette légèreté, frappée par la dureté de la vie, finalement, quelle que soit, encore une fois, la situation, même si là, on est dans une situation très, très précise, mais qui a aussi le mérite, ce que je dis tout à l'heure, de nous dire qu'il ne faut pas oublier que c'est arrivé, que ça existait, et tout à l'heure, nous avions le témoignage.
Et que ça existe encore, oui. Et qu'il faut être d'une vigilance, et je pense que les jeunes, enfin, ils ont l'air de s'identifier... Irène, voilà, Irène, c'est une Irène d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et visiblement, ça, évidemment, la période historique est très, je l'assume complètement, je traite d'une période très, très unique, mais qui, dans d'autres situations, dans d'autres mesures et dans d'autres ampleurs, existe. L'antisémitisme aujourd'hui, je disais ça ce matin, refait...
Je crois qu'il y a un pourcentage incroyable, en tout cas de personnes. Tu me disais, Daniel, qu'il y avait
64% des Français qui considèrent qu'il y a toujours un climat d'antisémitisme.
Et 45%
en France,
des Français qui disent à leurs enfants de ne pas dire qu'ils sont juifs.
Ouais.
Pour éviter... Donc voilà, ça ne devrait pas exister.
Et le racisme en général.
C'est toujours tristement d'actualité, absolument. Une jeune fille qui va bien, c'est aujourd'hui au cinéma... C'est Sandrine Kiberlain qui réalise son premier film avec son héroïne. Elle est venue aujourd'hui, Rebecca Marder, justement, à propos de héros. Voici le héros du jour, Daniel.
Alors, écoutez, héros du jour et surprise aujourd'hui, les amis. Oui, surprise, car aujourd'hui, je ne rends pas hommage à un salaud. Non, mon héros du jour, c'est l'environnement. Même si jusqu'à très récemment, le réchauffement climatique et la disparition des espèces animales, j'en avais, comme on dit, pas rien, mais peu à foutre. Et, pour une raison qui m'échappe encore, à l'heure où je vous parle, je me sens concerné par l'état de la planète. Oui, je tremble quand la Terre transpire. Oui, je suffoque quand le CO2 fait une percée. Oui, je pleure quand le cormoran mazouté n'arrive pas à se désengluer.
Oui.
C'est un article paru ce matin dans la presse qui a réveillé ma conscience. Il paraît que de plus en plus de bénévoles viennent au secours de la nature en s'engageant dans des actions concrètes, style ramassage de plastique ou replantage d'arbres. Du coup, comme moi je suis souvent dans l'excès, j'ai décidé de m'engager à fond dans la lutte, moi aussi. Du coup, je propose une lutte, mais une lutte radicale. Oui, les amis, l'égoïsme ambiant est en train de nous détruire sans qu'on s'en aperçoive. On crie au secours, les petits oiseaux sont en danger, mais on ne fait rien pour avancer le sordide destin volatile. Alors, nettoyer une dune, c'est bien. Planter un sapin, c'est cool. Mais est-ce suffisant? Non, bien sûr que non. Il faut des mesures musclées, des actions coup de poing pour changer les choses. C'est pour ça que je propose qu'on passe à une action écolo-militante violente. On frappe à la porte des gens, on rentre dans la maison s'il fait plus de 19 degrés, on coupe le chauffage tout l'hiver. On rentre aussi chez les gens pendant qu'ils prennent leur douche. Si ça dure plus de 3 minutes, on coupe l'eau chaude 6 mois. On fouille dans les poubelles des gens si le tri sélectif est pas rigoureusement observé. On utilise leur salon comme déchetterie pour tout le quartier. Au feu rouge quand une bagnole à essence est à l'arrêt, que le conducteur est seul, on fait rentrer dans sa caisse 10 personnes qui devront déposer où elle le souhaite, toutes les personnes. Ça va booster le covoiturage. Au moment des repas, on déboule dans la salle à manger, on vérifie les assiettes. S'il y a trop de viande, pas assez de légumes de saison, on oblige les contrevenants à bouffer du sable pendant une semaine. Si on parle de sable, eh ben l'été on va sur la Côte d'Azur. Si sur une plage on voit quelqu'un jeter un détritus, on l'oblige à terminer ses vacances au Touquet, toujours sur la plage. Si on aperçoit un homme ou une femme qui s'est décoloré les cheveux avec un solvant polluant et dangereux pour la mer, on le tombe. Alors oui, je sais, ma méthode est légèrement fascisante.
Un peu.
Mais vous me connaissez, l'intolérance et l'outrance, j'adore ça, vive la France.
Merci, évidemment. Rebecca Marder quitte donc la comédie française, oui, mais elle est au cinéma avec Une jeune fille qui va bien aujourd'hui en salle, signée Sandrine Kiberlin. On vous retrouvera également dans le rôle de Simone Veil, Le voyage du siècle, le biopic d'Olivier Dahan. C'est déjà tourné ?
Oui. Ça a même été tourné en 2019.
Mais non.
En 1612.
D'accord.
Ça a été tourné, avant Une jeune fille qui va bien.
Et ça sortira en octobre prochain.
Et ça sort en octobre prochain.
Très bien.
Et voilà.
Et
voilà.
Vous avez joué également sous la direction de Michel Leclerc.
Oui, c'est vrai.
On est vraiment dans des cinémas complémentaires, mais pas spécialement proches, entre Olivier Dahan et Michel Leclerc. Oui. Les goûts et les couleurs. Là, vous êtes quoi, chanteuse, Jean ?
Là, je joue le rôle d'une chanteuse. Et avec Judith Chemla aussi et Félix Moiti.
Parfait.
Donc
on aura l'occasion de vous inviter à nouveau ici pour nous présenter tous ces projets artistiques.
Mais je reviendrai avec elle.
Alors c'est pas sûr, parce que le 16 février, donc très rapidement, on va vous retrouver à l'affiche, là cette fois-ci en tant qu'actrice, dans Notre Monde de Stéphane Brisé.
Oui.
C'est une histoire de fidélité entre
Stéphane et moi.
Entre Stéphane et vous Vincent. Et Vincent Lindon, ouais. Oui, c'est vraiment.
On se retrouve après des années quand même, hein, après Mademoiselle Chambon, c'était il y a longtemps. Mais parce qu'il a travaillé avec des acteurs non professionnels autour de Vincent pour traiter l'entreprise. Et là, c'est encore un film sur l'entreprise, mais du côté des chefs d'entreprise et du pouvoir, enfin de ce qu'on a. Voilà, du pouvoir. Et moi, je suis la femme de Vincent dans l'histoire qui, au moment où le film commence, veut quitter son mari. Alors que c'est pas évident, parce qu'elle a l'âge qu'elle a et pas forcément de projet devant elle, mais elle préfère quitter son mari et le mettre en face d'une réalité qui est la leur, qui est que l'entreprise prend trop de place dans leur vie et que c'est sans doute le seul moyen et de se sauver elle et de sauver éventuellement le couple qu'ils forment, Philippe et elle.
Et clin d'œil, on retrouve Anthony Majon qui est dans votre film également.
Oui, que j'avais déjà choisi, qui m'avait déjà dit oui et on se connaissait très peu et donc c'était un peu...
Et qui joue votre fils dans le film.
Heureusement que je l'ai aimé et qu'il m'a bien aimé aussi. C'était spécial.
Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon, justement, Françoise Widoff, India Air, Florence Viala de la Comédie Française, Ben Attal, Cyril Metzger, Jean Chevalier de la Comédie Française, tout ça avec la direction de Sandrine Kiberlin, une jeune fille qui va bien, c'est aujourd'hui au cinéma, c'est à voir, puis allez-y avec vos enfants, parce qu'il y a des, forcément des discussions qui s'enchaînent ensuite, et des valeurs dans l'éducation aussi qui se transmettent. Il y a l'insouciance aussi, mais il y a beaucoup de valeurs portées dans le film. Merci mille fois, et bravo, merci à vous. Demain, Valérie Lemercier et Isabelle Gignas seront nos invités pour les sœurs bien-aimées. Passez une bonne journée. À demain.